Chapitre 17, le restant de la nuit. Les maisons ont leur destinée comme les hommes, et aussi, pourrait-on dire, leur ridicule, leurs infirmités. Je ne sais comment exprimer cette chose subtile mais vraie. Le théâtre de l'Odéon est né pingre et pauvre. Au milieu des prospérités méritées qui lui arrivent périodiquement et l'indemnisent de ses longues famines, il reste mal fourni, comme ces ménages d'artistes qui donnent à dîner sans vaisselle. Il a son luxe à lui, de temps en temps, un luxe glorieux, mais il lui manque toujours quelque chose, soit une chemise, soit des chaussettes. Supposez-le vêtu avec splendeur, si son pourpoint s'entr'ouvre, vous verrez qu'il n'a pas eu le temps d'acheter une soubre-veste. Cette nuit où l'Odéon donnait bal, les éblouissements de la façade s'arrêtaient juste à l'entrée des galeries noires comme de l'encre, et dans chacune desquelles deux ou trois quinquets honteux charbonnaient leurs mèches avares. L'invention du gaz a supprimé ces contrastes autour de l'Odéon comme ailleurs, mais à l'époque, si rapprochée de nous où se passe notre histoire, l'envers d'une fête éclairée à Giorno pouvait être encore l'obscurité complète. Roland fit un circuit et gagna péniblement la galerie qui longe la rue Corneille. Il fut soulagé en entrant dans ses ténèbres. La galerie était à peu près déserte. Roland s'assit sur une marche et laissa tomber sa tête entre ses mains. Il essayait de penser. Presque à ses pieds, dans la rue, une élégante voiture stationnait avec son cocher endormi sur le siège. Derrière lui, des couples rares allaient et venaient. En somme, il faut des bosquets autour des bals champêtres. Ces galeries solitaires faisaient office de bosquets. Un couple s'arrêta, loin de Roland, qui n'avait garde de l'épier. Le quinquet lointain dessinait la forte carrure d'un homme, jeune encore, portant un costume de ville. La femme, toute jeune et de gracieuse tournure, avait un domino noir sans capuchon. Elle tenait son masque à la main. « Il est honnête, dit-elle, plus honnête que je ne l'aurais cru, on n'y peut rien. »
« Bah, fit l'homme aux épaules carrées, sans vous flatter, madame la comtesse, il n'y a pas dans Paris une femme aussi belle que vous. Vous savez ce garçon-là par cœur, il vous aime à la folie. Il fera tout ce que vous voudrez, et nous comptons là-dessus. »
Dans la manière dont furent prononcés ces mots, madame la comtesse, on aurait pu remarquer une petite pointe d'ironie. Une bande de jeunes gens costumés tourna l'angle de la rue Corneille, précédée par deux masques qui avaient des torches. Madame la comtesse et son compagnon se reculèrent dans l'ombre du pilier, mais pas assez vite pour empêcher la lumière des torches de glisser un instant sur leur visage. L'homme avait raison. Il n'y avait point dans Paris de femme plus belle que Marguerite Sadoulas, dont les admirables cheveux s'étoilaient maintenant de pierreries et qui portait une rivière de diamants sur sa gorge nue. L'homme était Monsieur Lecoq, ni plus ni moins, le grand Monsieur Lecoq. La bande titubante et hurlante se composait des clercs de l'étude de banc qui avaient soupé outre mesure et qui traînaient en triomphe Joulou, ivre-mort, dans son costume de buridan débraillé et souillé. « Il ne faut pas qu'on me le tue, » murmura Marguerite, en regardant la tête blême de Joulou qui pendait, inerte et stupide, sur les épaules de ses porteurs. « Il faut qu'on vous le forge, » répondit froidement Monsieur Lecoq. « Il est dur, on frappe fort, l'affaire en vaut la peine. » Jusqu'alors, Roland n'avait rien entendu, ou plutôt les paroles passaient comme un vain son autour de ses oreilles. La voix de Marguerite elle-même n'avait produit sur lui aucune impression. Une manière d'étudiant, vêtu d'une vareuse en peluche et coiffée d'un béret basque, enjamba les marches d'un bond et passa si près de Roland que le pan de la vareuse fouetta sa joue. L'étudiant s'arrêta, immobile, au haut des marches, et plongea son regard dans l'ombre de la galerie. « C'est pourtant bien la voiture, » grommela-t-il.
« Ici, Commérole, » prononça tout bas Monsieur Lecoq.
L'étudiant à la vareuse le rejoignit aussitôt. Les compagnons de Joulou entraient à l'estaminet de l'hôtel Corneille et criaient à tue-tête
« Du punch ! Plusieurs baquets de punch pour célébrer les noces du seigneur comte et son héritage ! Largesse au manant ! L'histoire est une sotte et le théâtre de la Porte Saint-Martin ment comme un ribaud ! Buridan a épousé Marguerite de Bourgogne la semaine passée et roule depuis ce temps-là dans les vignes. Du punch, un océan de punch, Hymen, Hyménée, vive la charte, le papa de Bretagne est enterré, nous sommes chefs de nom et d'armes, Orsini, tavernier d'enfer, nous avons des angelots pleins nos escarcelles, à boire, liesse, liesse.
Patron, dit Commérol en les montrant du doigt, voilà un tas de bavards qui, désormais, ne vous serviront guère, ils sont bons à brûler.
Pourquoi ? Demanda Marguerite.
« Bonsoir, comtesse, » fit le faux étudiant. Marguerite tendit la main à Commérol, qui poursuivit, au lieu de répondre à sa question.
« Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un endroit plus commode pour les affaires, patron ?»«
Nous sommes bien ici, » répliqua Monsieur Lecoq. « Je suis pressé. »
Commérol se rapprocha de Roland, qui semblait une masse noire, appuyée contre le pilier, et se pencha sur lui.
« Dormez-vous, la bonne vieille ?» demanda-t-il.
Comme Roland ne bougeait pas, il le poussa du pied. Roland s'affaissa de côté et resta immobile.
« C'est une souche, » dit Lecoq, « laisse-la dormir et parle. Pourquoi ceux-ci sont-ils bons à brûler ?»«
Parce que, » répondit Commérol, « Léon Malvois a acheté et payé l'étude de banc, aujourd'hui même. »«
Ah bah, » fit Lecoq, « jolie opération. Et vous pensez qu'il va faire maison nette ?»«
Il nous connaît assez bien pour cela, » répartit modestement Commérol.
Monsieur Lecoq était pensif.
Il n'est pas encore temps de prendre les titres, murmura-t-il en se parlant à lui-même.
Monsieur le duc pourrait les réclamer, cela gâterait tout. Laissons aller. Ce Léon Malvois ne connaît pas toutes les charges de son étude. Et il n'y a de bon à brûler que ce pauvre vieux Deban dont je ne donnerai pas 10 louis. Voilà où mène la mauvaise conduite.
Commérol dit « Amen de bon cœur ». Madame la comtesse eut un frisson sous son domino.
« J'ai froid, dit-elle, rentrons au bal. »«
Non pas, ma toute belle, répliqua Monsieur Lecoq.
Si vous avez froid, marchons, cela réchauffe. Je suis ici pour plus d'une affaire, et celle que nous avons ensemble n'est pas finie.
Quoi de nouveau au numéro 10 de la rue Sainte-Marguerite, Commérol ?»
Ce disant, il offrit son bras à sa compagne, et tous trois remontèrent la galerie, qui était déserte en ce moment.
Au numéro 10 de la rue Sainte-Marguerite, tels furent les premiers sons qui touchèrent utilement l'oreille et l'intelligence de Roland. Cela ne l'éveilla pas, car son engourdissement était profond et tenace, mais il essaya d'écouter, comme on fait parfois en rêve, et certes, si Marguerite eût parlé à la place où elle était naguère, il l'eût entendu. Mais Marguerite, avec ses compagnons, tournait en ce moment l'angle de la galerie qui regarde le jardin de Luxembourg. Il y eut un silence autour de Roland, ou plutôt ce ne fut plus qu'un murmure confus fait de bruits lointains, tels que les clameurs de la place, la musique du bal et le tapage de l'estaminet Corneille, où l'étude de banc, bonne à brûler qu'elle l'était, s'amusait comme une bienheureuse autour de joulous pétrifiés. Et puis tout à coup d'autres voix s'élevèrent auprès de Roland, qui sentit deux paires de mains éprouver les poches vides du vêtement neuf de la Davo. Il eut l'instinctif désir de repousser cette agression. Pour la première fois, il comprit l'étrange paralysie qui garrottait ses membres. Il était, comme au lendemain de sa blessure, complètement perclus, mais sa pensée vivait.
« Rien à frire, » dit une des voix, « la pauvre diablesse n'en peut plus. Elle n'ira pas dire à Toulonnais que nous avons visité ses poches.
»« C'est drôle, » répliqua l'autre voix, « il y en a qui meurent de faim à Paris. »
Les deux interlocuteurs tournèrent le dos à Roland et entrèrent sous la galerie.
« Une belle coquine tout de même, cette madame la comtesse, » reprit celui qui avait parlé le premier.
« Il n'y a pas longtemps qu'elle l'en mange, » répondit l'autre. « On l'a englobée au dernier carnaval. Elle est là pour une mécanique de longueur que Toulonnais monte. Il s'agit d'un duc général, pair de France, et le reste, qui a plus d'argent que le roi et qui l'a bien gagné, car il a tué son frère aîné ou quelque chose comme cela, autant jadis.
En foi de quoi, conclut la première voix, l'habit noir, remplaçant avantageusement la Providence, va le faire chanter comme un mirliton et saigner sa caisse à blanc. Qu'est-ce qui nous en reviendra à nous autres, Picpus, ma vieille ?
Le Picpus ouvrait en ce moment la lanterne de l'élégante voiture arrêtée le long du trottoir pour allumer sa pipe. C'était un jeune homme de 24 à 25 ans, maigre, pâle et triste, portant un costume d'étudiant râpé. Il haussa les épaules en poussant sa première bouffée et répondit « Cocotte, mon petit, si tu avais une redingote de Sedan, première qualité, au lieu de ta blouse, un pantalon de casimir noir, des bottes vernies, une conscience sans tache, je te montrerais une manière de s'en servir qui nous donnerait des rentes à perpétuité. » Il soupira et referma la lanterne. Cocotte, gamin de 18 ans, leste, vif, bien tourné et bien couvert, quoique son vêtement principal fût, en effet, une blouse de laine, roulait une cigarette avec indolence. « Si on prévenait ce monsieur le duc, commença-t-il. » Mais la main osseuse de Picpus s'appuya sur sa bouche et lui coupa la parole.
« Méfiance, murmura Picpus, les voilà. »
Monsieur Lecoq, Marguerite et Comérol redescendaient la galerie. Cocotte et Picpus disparurent comme par enchantement. Roland en était encore à chercher laborieusement le sens des paroles entendues. Son intelligence renaissait avant ses facultés physiques. Il y avait dans son cerveau un grand trouble d'où se dégageait cette pensée « qu'il a tué son frère aîné ». « J'ai vu l'acte de décès, disait en ce moment Comérol. Il est au nom de Thérèse tout court et ne contient pas d'autre indication. » Roland, frappé avec violence, essaya de se retourner, mais ses muscles étaient de pierre. « Et le fils ? Demanda Monsieur Lecoq. « Disparu depuis 3 semaines, répondit Comérol. On ne l'a pas revu depuis la nuit du mardi gras au mercredi des cendres. » Marguerite cessa de marcher. « C'est drôle, pensa-t-elle tout haut, la nuit du mardi gras. » Mais Roland ne l'entendit point parce que nos 3 interlocuteurs, continuant leur route vers la place de l'Odéon, avaient déjà dépassé d'une 12aine de pas l'arcade où il était assis. Monsieur Lecoq demanda à sa belle compagne « Pourquoi est-ce drôle ?» La comtesse répliqua sèchement « Parce que... » Ils arrivaient au bout de la galerie où plusieurs groupes se tenaient, éclairés à demi par les reflets perdus de la façade du théâtre. Le regard perçant de Monsieur Lecoq interrogea tous les visages, qu'ils fussent ou non recouverts d'un masque. Sans doute, il ne trouva point là ce qu'il cherchait, car il se tourna brusquement et reprit, suivi de ses 2 compagnons, sa promenade en sens contraire. Roland les attendait, il écoutait. « C'est toute une histoire, disait Comérol. J'ai su la chose par une vieille voisine qui a veillé la mère à ses derniers moments et qu'on a fait parler tant qu'on veut en lui comptant Fleurette. La mère était très pauvre, mais il paraît que ce nigaud de Deban avait entamé une négociation de ce côté. Vous savez qu'il est toujours prêt à tuer la poule aux œufs d'or pour un morceau de pain. » Ici, nos 3 interlocuteurs dépassèrent encore l'arcade et la voix de Comérol se perdit dans les murmures environnants. Roland fit un effort désespéré pour tourner le pilier, mais ce fut en vain. Comérol, cependant, continuait « 20 000 francs, voilà ce que Maître Deban demandait à la mère pour lui remettre l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. Les aurait-il livrés ? Je n'en sais rien, mais la mère s'était procuré les 20 000 francs. » 20 000 francs, répéta Marguerite, qui, depuis plusieurs minutes, était pensive. Monsieur Lecoq dit « Je suis comme Madame la Comtesse, je pense au Buridan assassiné et son portefeuille qui contenait 20 000 francs, juste. » « Et je dis que je pensais à cela, » murmura Marguerite d'une voix altérée. « Nous allons causer nous deux, mon trésor, » prononça tout bas Monsieur Lecoq. Puis il reprit gaillardement « Comérol, mon garçon, nous passerions par un trou d'aiguille cette nuit, hein ? Nous avons la crête basse, nous cherchons à nous rendre utiles, et nous sommes profondément convaincus que notre avenir est aux mains de l'ami Beaufils, ou Lecoq, ou toute autre appellation qui lui plaira d'assumer pour désigner sa précieuse personne. Il y a du vrai là-dedans, bonhomme, mais le découragement ne mène à rien. Ma seigneurie est contente de vous. Vous avez travaillé comme un ange, et mon rapport au colonel contiendra une mention honorable en votre faveur. Ce notaire gentilhomme, monsieur Lyon de Malvoie, est-il réellement incorruptible ?
Je le crois, répondit le maître clerc.
Alors il ne peut vous garder chez lui, puisqu'il a l'honneur de vous connaître.
Avant de s'en aller, murmura Comérol, on pourrait mettre les 10 doigts et le pouce dans le carton de Monsieur le Duc.
Prohibé, l'interrompit Lecoq, j'ai mon idée.
Le tanneur et monsieur Léon Malvoy sont des camarades. Monsieur Léon Malvoy gardera peut-être le tanneur. » Commérol laissa échapper un geste de dépit. « Ceux qui resteront et ceux qui s'en iront, prononça monsieur Lecoq, avec une gravité magistrale, seront toujours pour moi l'étude de banc, la vraie. Nous sommes des associés. Vous avez, tant que vous êtes, tiré un fier numéro à la loterie la nuit du mardi gras au mercredi des cendres. Les choses marchent. Il n'est pas nécessaire que vous sachiez comment elles marchent. Voulez-vous que je vous dise un mot qui va vous faire plaisir et peur, bonhomme? Et là-bas, dans la rue Campagne Première, vous avez été témoin d'un meurtre. Chez le colonel, ça vaut de l'argent. Une demi-douzaine d'honnêtes garçons qui peuvent dire, telle nuit, à telle heure, un homme a été tué, et reconnaître l'assassin. Mais, voulut l'interrompre Commérol, nul d'entre nous n'a vu le meurtrier. Et reconnaître l'assassin, répéta péremptoirement monsieur Lecoq. « Diable, ne dépréciez pas vos actions. Une demi-douzaine d'honnêtes garçons dans cette situation-là, voyez-vous, ne sont jamais bons à brûler. » Des applaudissements frénétiques éclatèrent tout à coup à l'entresol de l'estamine et Corneille, dont les croisées s'ouvrirent. On put voir l'étude de banc danser en rond autour de Joulou, debout sur une table, le verre à la main, la tête nue et couronnée d'un triple diadème de bouchons enfilés. Il avait les yeux sanglants et la joue livide. Marguerite serra le bras de Lecoq et dit « Bonhomme, madame la comtesse s'ennuie de nous entendre parler affaires. Je vous donne congé pour aujourd'hui. Vous permettez, chère belle ?» s'interrompit-il en s'adressant à Marguerite. Il lui lâcha le bras et prit Commérol à part. Marguerite descendit seule à la galerie et vint jusqu'à l'arcade où était Roland sous les habits de la Davos. Elle resta là, parce que de là on découvrait tout l'intérieur de l'entresol où les clercs de banc fêtaient les noces et l'héritage du comte Joulou. Les yeux de Marguerite restèrent fixés sur Joulou. Elle réfléchissait, immobile et silencieuse. « Rue Notre-Dame-des-Champs, dit monsieur Lecoq au maître clerc, au couvent du Bon Secours, il y a quelque chose qui nous regarde. Attention à ceci. » Le jeune homme du numéro 10 a disparu le jour du meurtre, remarquez bien, et depuis le jour du meurtre, les dames de Bon Secours donnent l'hospitalité à un inconnu. Mes renseignements sont jusqu'à présent très vagues, je n'ai pas d'aboutissant, mais mon flair est éveillé, nous sommes sur une piste. Les affaires d'une certaine sœur Françoise d'Assise ne sont-elles pas à l'étude ?
C'est la tante propre de monsieur le duc, répondit Commérol.
Excellent prétexte. Demain, vous irez à Bon Secours, annoncer le changement de titulaire. Vous êtes adroit quand vous voulez. Apportez-moi le mot de l'énigme et vous serez récompensé. » Il tendit la main à Commérol, qui ouvrit la bouche pour faire une question. « À l'avantage, ajouta péremptoirement monsieur Lecoq, j'ai dit.
« Fera-t-il jour demain ? Demanda le maître clerc avec une sorte de timidité.
« À la caisse, oui, il fera jour jusqu'à minuit pour ceux qui auront de bonnes nouvelles. » Monsieur Lecoq tourna le dos et Commérol entra à l'hôtel Corneille. Monsieur Lecoq, au lieu de rejoindre Marguerite, fit quelques pas du côté de la rue de Vaugirard en sifflotant doucement le motif de Robin des Bois, chasseur diligent. L'étudiant râpé Picpus et le flambant gamin de Paris Cocotte parurent aussitôt à ses côtés. On eût dit qu'ils sortaient de terre. « Demain, 10 heures, ordonna monsieur Lecoq, il fera jour, rue Cassette numéro 3, étude de banc. Demandez monsieur Jaffré. Prendre le plan exact de la maison tout entière, principalement moyen d'aborder la pièce où sont les dossiers. À la niche !» Cocotte et Picpus reçurent chacun une légère indemnité en forme d'avance sur le travail commandé et s'éclipsèrent. Monsieur Lecoq revint vers Marguerite, qui à ce moment touchait l'épaule de Roland, disant « Madame, vous êtes malade ?» Lecoq se mit à rire. Roland n'avait pas donné signe de vie. Marguerite ouvrit son riche porte-monnaie et déposa un louis sur les genoux de la prétendue femme, ajoutant comme on s'excuse « J'ai eu faim, je m'en souviens. » À tout prendre, murmura monsieur Lecoq en lui offrant son bras, quand on peut jouer le rôle d'ange pour 20 francs, ce n'est pas cher. Je suis fatigué, partons.
Il voulut entraîner Marguerite, qui résista et montra du doigt l'orgie de l'estaminet Corneille. La figure de Joulou ressortait, effrayante de pâleur au milieu de la confusion du tableau. « Si celui-là s'éveille jamais, prenez garde, commença-t-elle. On le rendormira, l'interrompit Monsieur Lecoq. Elle se tourna vers lui, sombre et belle, car elle venait d'ôter son masque. « Vous ne le connaissez pas comme moi, murmura-t-elle. » Ils étaient maintenant sur les marches entre Roland et la voiture dont le cocher sommeillait. Il tournait le dos à Roland qui fit un mouvement, le premier depuis une longue demi-heure. Sa main maladroite et lente dérangea les plis du châle qui voilait son visage, et son regard ardent se fixa sur Marguerite. Celle-ci poursuivait. « J'ai peur de lui, et je ne voudrais pas qu'on lui fît du mal. C'est ma brute, un loup qui est beau comme un lion quand il se bat. Il n'a pas assassiné, non, l'autre avait un couteau dans la main, l'autre était plus brave que lui et plus beau que les anges. « Tu as sommeil, ma fille, » prononça rudement Lecoq, « tu rêves. » Marguerite se tut. Du bout de la badine qu'il tenait à la main, Monsieur Lecoq fouetta les doigts du cocher endormi, qui se dressa sur son siège et rassembla mécaniquement ses guides. Marguerite demanda « Est-ce que, dans cette affaire où il y a un duc, je pourrais devenir duchesse ?»« Parbleu !» repartit Lecoq en riant. Il lui offrit son bras pour monter en voiture et ajouta froidement « C'est la moindre des choses pour la maîtresse de tout l'honnête amitié. À la maison, Jacobie !» Le cocher enleva ses chevaux. Roland se mit debout sans effort. Il semblait qu'un choc électrique favorable eût rendu la vie à ses membres. Le trouble était maintenant à son cerveau. Quand la voiture, lancée déjà au grand trot, tourna l'angle de la rue Corneille, il appuya ses deux mains contre son front et murmura « Marguerite, Marguerite, moi, je vais à la tombe de ma mère. » Il se mit en marche, en effet, mais au lieu de prendre le chemin du cimetière, il suivit la voiture de Marguerite. La nuit se faisait de plus en plus dans sa pensée. Cependant, il allait aisément et bien. Comme il traversait la place du théâtre, il reçut plus d'un choc dans la foule et ne s'en aperçut point. Il était fort. Dans la rue Racine, il put courir. À 100 pas de la place, la rue était déjà obscure et solitaire. Derrière lui, Roland entendait le fracas du carnaval. Devant, c'était le silence. Il chercha des yeux la voiture qui avait disparu depuis longtemps. 100 pas encore et le pavé oscilla sous lui comme le pont d'un navire qui tangue. Il revit la voiture au milieu d'un grand éblouissement. La voiture était découverte et glissait sous de grands arbres, baignée dans le soleil. Marguerite, en robe blanche, avec ses longs cheveux fleuris tombant sur ses épaules nues, se penchait vers un jeune homme. « C'est moi, se dit Roland, que le vertige emportait. Je me reconnais bien. Arrêtez, je veux aller au cimetière. » À l'éblouissement succédèrent des ténèbres profondes. Roland courait encore, mais en zigzag, comme un homme ivre. Ses oreilles étaient entourées de larges rumeurs. Il lui parut que des étincelles ruisselaient impétueusement de son front jusqu'à terre. Il tomba et ne fit aucun effort pour se relever, mais il baisa le pavé de la rue, pensant « Je suis arrivé, ceci est la tombe de ma mère ». La nuit sonna toutes ses heures au clocher voisin. La ville s'endormit, lasse d'orgie. L'aube naquit, froide et triste. Roland s'était couché de tout son long sur la terre. Une pluie patiente tombait sans bruit, mettant un mince filet d'eau dans le ruisseau qui se précipitait en microscopique cascade. Le ciel gris montrait son étroite bande entre les pignons dentelés. C'était une de ces vieilles rues, reliques de Paris père, dont Paris fils a amputé récemment les derniers tronçons. D'un côté, elle montait à pic vers Sainte-Geneviève, de l'autre, frayant son chemin tortueux parmi les masures, où le Moyen-Âge tout entier revivait à cette heure indécise, elle allait heurter l'hôtel de Cluny. Personne ne passait. Juste au-dessus de l'endroit où Roland gisait, semblable au cadavre d'une pauvresse, morte de faim, un réverbère balançait sa mèche fumeuse en gloussant plaintivement. La lueur du réverbère éclairait une maison vaste et délabrée, au-devant de laquelle pendait un tableau, enluminé bizarrement. Ce tableau représentait un rapin barbu, en costume de sauvage, debout, les pinceaux et la palette à la main, en face d'une toile tendue sur un châssis, où deux hommes, demi-nus, luttaient à main plate au milieu d'une foule de crocodiles, de tigres, de serpents, d'enfants, de bonnes et de militaires. Au-dessous du tableau, un écusson presque effacé par l'âge portait « Cœur d'acier, peintre d'enseigne, fait les grands tableaux pour messieurs les saltimbanques et artistes en foire. » Fin de la première partie.